VOA Afrique, les infos à Washington.
Georges Bion, il est 10h en temps universel. Les ministres des Finances du G7 se retrouvent mercredi et jeudi près de Paris sur fond de tensions franco-américaines sur la taxe sur les géants du numérique, mais aussi pour parler du projet de monnaie virtuelle de Facebook. Dans les coulisses, cette réunion préparatoire du sommet des chefs d'État du G7, qui se tiendra à Biarritz, dans le sud-ouest, fin août, donnera surtout l'occasion aux alliés des États-Unis de discuter avec l'administration de Donald Trump de la guerre commerciale qui menace la croissance mondiale et la taxation du numérique. La France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, les trois signataires européens de l'accord sur le nucléaire iranien de 2015, ont appelé ensemble dimanche à arrêter l'escalade des tensions et reprendre le dialogue selon un communiqué commun. Azuma Compaoré.
Dans ce texte diffusé par la présidence française, Paris, Londres et Berlin se disent préoccupés par le risque que l'accord de 2015 ne se défasse sous la pression des sanctions imposées par les États-Unis et à la suite de la décision de l'Iran de ne plus appliquer plusieurs des dispositions centrales du texte. Par ailleurs, nos trois pays sont profondément troublés par les attaques auxquelles nous avons assisté dans le Golfe Persique et au-delà, ainsi que par la détérioration de la sécurité dans la région. Nous pensons que le moment est venu d'agir de façon responsable et de rechercher les moyens d'arrêter l'escalade des tensions et de reprendre le dialogue. L'Iran avait décidé en mai, un an après le retrait unilatéral des États-Unis de l'accord international de 2015 visant à limiter son programme nucléaire, de cesser de limiter ses réserves d'eau lourde et d'uranium enrichi. Alors que nous continuons de soutenir l'accord, sa poursuite dépend du plein respect par l'Iran de ses obligations, écrivent dimanche les trois États européens pour lesquels des signes de bonne volonté sont nécessaires de toute urgence de la part de toutes les parties, soulignent la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne.
Pas de suspense cette fois pour le narcotrafiquant mexicain Joaquin Guzman, alias El Chapo. Il devrait être condamné mercredi à New York à la prison à vie. La fin d'un feuilleton de plus de 40 ans. Les textes sont formels. Le juge fédéral Brian Cogan, qui a présidé le procès fleuve d'El Chapo entre novembre et février, doit prononcer la réclusion à perpétuité rendue automatique par les chefs dont il a été reconnu coupable le 12 février. Considéré comme le narcotrafiquant le plus puissant depuis la fin du règne du Colombien Pablo Escobar en 1993, Joaquin Guzman, aujourd'hui âgé de 62 ans, a acheminé aux États-Unis au moins 1200 tonnes de cocaïne sur un quart de siècle. Les représentants du chef de file de l'opposition vénézuélienne Juan Guaido se sont rendus à la Barbade pour poursuivre le dialogue avec le gouvernement de Nicolas Maduro à la recherche d'une solution à la crise politique qui secoue le Venezuela, a annoncé dimanche l'équipe de M. Guaido. Le gouvernement, de son côté, n'a pas encore confirmé l'envoi de ses représentants sur l'île caribéenne. Le dialogue entre le gouvernement et l'opposition avait repris entre le 8 et le 10 juillet à la Barbade, sous les auspices de la Norvège, qui avait annoncé que les partis avaient convenu de mettre en place un groupe pour travailler de manière continue et rapide.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Un premier cas de fièvre hémorragique Ebola a été enregistré dimanche à Goma, la plus grande ville touchée depuis le début de l'épidémie. Le 1er août dernier, en République démocratique du Congo, a annoncé le ministère de la Santé qui demande que la population garde son calme. Par ailleurs, deux responsables communautaires enrôlés dans des campagnes de prévention contre l'épidémie ont été assassinés dans l'est de la RDC dans la nuit de samedi à dimanche, toujours selon le ministère de la Santé. Ces deux agents de la riposte ont été tués chacun à leur domicile entre Beni et Butembo dans la province du Nord Kivu. Des paramilitaires soudanais ont tué dimanche un civil et blessé sept autres personnes dans une ville au sud-est de Khartoum, au Soudan, après que des habitants eurent protesté contre eux, selon des témoins et des médecins. L'incident s'est produit dans la ville d'Al-Souk, dans l'état du Sennar, après un rassemblement d'habitants réclamant le départ de leur ville des forces de soutien rapide, RSF, un redouté groupe de paramilitaires. Et puis le premier ministre canadien Justin Trudeau a condamné dimanche l'attaque terroriste ignoble en Somalie. Cette attaque a fait au moins 26 morts, parmi lesquels une journaliste canadienne d'origine somalienne, dont Ottawa pleure la perte. Jean-Roger Bion à ce micro, je vous retrouve dans 55 minutes pour un nouveau journal. À tout à l'heure.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.